Chapitre 41. Selon la stratégie qu'il s'était imposée, le commissaire Le Pennec cherchait à recueillir des informations sur deux choses, Schœlcher et Ernesto Brancoli. Ayant allumé son micro-ordinateur, il se connecta sur Internet par l'intermédiaire de Google. Il avait une vague idée de l'identité de ce Schœlcher. Un site lui confirma son hypothèse. Né en 1804, Victor Schœlcher est le fils d'un négociant en porcelaine parisien d'origine alsacienne. Il s'intéresse dès le collège aux thèses anti-esclavagistes. Devenu journaliste, il voyage aux Antilles, aux États-Unis, au Proche-Orient et en Afrique. Il milite pour une émancipation immédiate des esclaves, assorti d'une indemnisation de leur maître. Arago, ministre provisoire de la Marine et des Colonies, appelle auprès de lui Schœlcher comme sous-secrétaire d'État aux Colonies. Schœlcher reprend, à la demande d'Arago, un projet de décret qu'il transforme en véritable décret du principe d'abolition. Le texte est signé le 4 mars 1848. Que venait-il faire dans cette affaire? Quel rapport avec Ernesto Brancoli? Les informations sur ce dernier étaient plutôt vagues sur Internet. Le Pennec décida d'aller voir un spécialiste du grand banditisme américain d'avant-guerre. Le professeur Joachim Ledrieux le reçut dans son superbe appartement de l'avenue Foch. Enseignant à l'université de Paris 7, il était le spécialiste à consulter. Le professeur, flatté de recevoir le chef de la si prestigieuse brigade criminelle, ne se fit pas prier pour donner des informations sur Ernesto Brancoli. C'était le fils d'immigrants italiens arrivés aux États-Unis. Ses parents étaient originaires d'un petit village, Stabiella di Mare, près de Naples. Savoir lire et écrire permit au père de trouver un emploi dans une épicerie jusqu'à ce qu'il puisse ouvrir son salon de barbier. Il avait ouvert une boutique à Brooklyn, près du chantier maritime. Sa femme Angelina faisait de la couture, en plus de s'occuper de la maison et de ses fils, afin de boucler les fins de mois. Ils eurent trois fils. Son quatrième fils fut prénommé Ernesto. Venait de naître celui qui deviendrait l'empereur du crime. Pourtant, rien ne prédestinait Ernesto Brancoli à ce destin. La famille Brancoli était tranquille, très attachée aux valeurs traditionnelles. La mère était renfermée, tandis que son mari en imposait plus, du fait de sa grande taille et de son charme. Tout comme son épouse, il était très modéré, particulièrement pour la discipline. Il ne frappait jamais ses enfants, préférant la parole et les sermons. La méthode fonctionnait. Rien dans la famille Brancoli ne laissait présager ce qu'Ernesto allait devenir. Peu après la naissance de son quatrième fils, Federico déménagea pour s'établir dans un meilleur logement, situé en haut de son salon de barbier, dans la Lincoln Avenue, à Brooklyn. Ce déménagement exposa Ernesto à d'autres cultures, puisque le voisinage comprenait des Irlandais pour la plupart, mais aussi des Allemands, des Suédois et des Chinois. C'est dans ce milieu qu'Ernesto Brancoli forgea le caractère qui allait lui permettre de devenir un gangster redouté. À mesure qu'il grandissait, son maître à penser fut Jimmy Del Rio, un parrain de la pègre. Jimmy Del Rio était un modèle pour les jeunes du quartier. Brancoli, à l'instar de plusieurs autres jeunes garçons, gagnait son pécule en faisant des commissions pour Del Rio. Avec le temps, ce dernier en vint à avoir de plus en plus confiance dans le jeune Ernesto et lui confia de plus en plus de responsabilités. L'élève dépassa le maître et parvint à l'éliminer et à prendre sa place. Bientôt, Brooklyn devint trop étroit pour lui. Il partit réaliser ses activités à Chicago. Chicago était l'endroit rêvé pour bâtir un empire criminel. C'était une ville tapageuse, batailleuse, et où l'alcool coulait à flots, ouverte à quiconque avait assez de billets verts. La corruption était une tradition créant une atmosphère d'illégalité dans laquelle le crime était à son aise. Là, tout pouvait s'acheter, même la police. Il suffisait d'y mettre le prix. Ernesto Brancoli bâtit un immense empire criminel. Il touchait à tout, le trafic d'alcool, la prostitution, les jeux. Les bandes rivales furent éliminées les unes après les autres. Ce fut une époque vraiment sanglante. Bien des fois, Ernesto faillit succomber sous les balles de ses ennemis. Il faut croire qu'il avait un ange gardien. Il s'était entouré d'avocats qui le conseillaient. Tous ces trafics étaient couverts par des officines ou des sociétés légales qui avaient pignon sur rue. Tout le monde était arrosé, les hommes politiques, les policiers. Il était intouchable. Un jour, la bonne fortune d'Ernesto Brancoli tourna. Le FBI, qui n'avait pu démontrer sa culpabilité dans des affaires criminelles, réussit à le coincer dans des affaires de fraude fiscale. Malgré les talents de son bras droit, l'avocat Fred Hogarth, l'élimination de quelques témoins gênants, l'achat d'autres, son procès eut lieu et il fut condamné à 10 ans de prison. Quand il fut incarcéré, les langues se délièrent et il fut à nouveau jugé pour ses crimes. Il n'échappa à la chaise électrique que grâce au talent de ses avocats. Il mourut de sa belle mort au milieu de la guerre dans sa prison. En quittant le professeur Joachim Le Drieux, le commissaire Le Pennec savait tout ce qu'il avait besoin de savoir sur ce fameux Ernesto Brancoli. Il restait toujours à trouver ce qu'était devenu l'argent de ces trafics. Comment, vraisemblablement, il avait été transféré en Europe, sans doute à Paris. Mais comment? En quoi Édouard Marcilly était-il mêlé à tout ça? Que venait faire Victor Schœlcher dans cette histoire? Comment le code de l'emplacement du trésor était arrivé entre les mains de la mafia américaine? Pourquoi la mafia russe était également partie prenante dans cette affaire? Autant de questions auxquelles il fallait trouver des réponses.